Salut, moi c'est Johanna et si je devais mourir, ma dernière action ça serait de manger. C'est pas très original mais je pense que je me ferais bien plaisir avec tout un tas de trucs, des bonbons, du chocolat, des chips au vinaigre par exemple. Et toi tu ferais quoi?
Salut, c'est Justine. Moi si je devais faire une dernière chose avant de mourir, eh ben, je crois que ce serait de pas mourir seule. C'est de choper quelqu'un, faire un gros câlin, un bisou et dodo.
On se retrouve aujourd'hui dans le podcast Lectus pour le dernier épisode de notre trilogie La Faucheuse, donc qui s'intitule Le Glas. Justine, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé?
Et on s'est quitté sur le tome 2 par une fin tragique. On assistait à la mort de Citra et Rohan qui tombaient enfermés dans un coffre-fort sur ce qui restait de la cité d'Andura. Et le livre reprend 3 ans plus tard. Donc Citra et Rohan sont a priori toujours disparus. Et le Thunderhead est désormais silencieux. Il s'est coupé de l'humanité, sauf pour une personne, Grayson Tolliver, avec qui il partage encore ses pensées. Donc le Thunderhead a été déclaré un peu hors service pour le reste de l'humanité, ce qui plonge un peu tout le monde dans le chaos. Et pendant ce temps-là, Maître Godard, qui est devenu Serpe Suprême, il va imposer une dictature sanglante sur la communauté des faucheurs. Il va essayer d'étendre son pouvoir à l'échelle mondiale, glanant sans éthique ni retenue.
Et on va rentrer un petit peu dans le détail juste après.
Bien, pour ce résumé, on va faire un peu différemment des fois précédentes. On s'était un peu calé sur le découpage des chapitres pour les tomes 1 et tome 2, puisque effectivement il y avait une certaine logique, une alternance de points de vue qui revenait assez souvent. Il y avait Citra, il y avait Rohan, il y avait Maître Faraday, puis un peu de Grayson. Mais bon, tout ça s'enchaînait un peu bien. C'est vrai que pour ce tome 3, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais c'est un peu plus fouillis parce qu'on voit plus de monde. Il se passe des choses un peu partout dans le monde à des temporalités différentes.
Ouais.
Donc peut-être qu'on va faire un découpage plutôt par partie. En gros, voilà, on va suivre le fil un peu chronologique du récit, mais...
Ouais, mais c'est vrai que la chronologie, elle est assez bizarre dans ce dernier tome. Moi, ça m'a un peu perturbée. Je l'ai trouvé un peu lent à démarrer, en plus. Parce qu'il me semble que la première partie, c'est vraiment sur Godard qui est au pouvoir, en fait. Je crois, non?
Oui, ça fait partie de cette première partie. On voit un peu d'où part tout le monde. On a Grayson avec le Thunderhead. Tu sais, il devient un peu... Il prend place dans son espèce de palais qu'on sait, c'est vers New York, à Manhattan, dans l'ancien...
Oui, ils ont pété un câble, ouais,
oui.
Parce que oui, en fait...
ça ressemble à un diapason.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et oui, pour remettre un peu de contexte, dans le livre 2, Grayson était parti se cacher chez les tonistes.
Oui.
Et en fait, chez les tonistes, la communauté dans laquelle il a atterri, il y avait, c'est pas un vicaire, je sais pas comment on appelle ça,
je crois que c'est un peu le nom qu'il lui est donné... C'est bien son manager.
Oui, voilà. Et en fait, le mec, il était dans la com avant. C'est il était venu chez les tonistes. Et là, le gars, il s'est dit, putain, c'est trop ma poule aux œufs d'or. Et du coup, il lui fait tout son merch. Il lui fait ses tenues et tout. Parce qu'il dit, mais non, mais tu peux pas rester habillé comme ça, en gros, comme un décor. Il faut que tu incarnes vraiment le Thunderhead, puisque tu es le seul à pouvoir discuter avec. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui auraient la curiosité de regarder la couverture, il y a pas mal d'éléments qui font résonance, si je puis dire, avec l'univers de ce troisième livre. Mais ouais, c'est vrai qu'il arrive, il est un peu... ça devient un peu Beyoncé, quoi.
Oui, un peu. Et donc, dans cette première partie, en ce qui concerne Grayson, donc on sait qu'il a quitté la vie Fulcrum City, qu'il est maintenant à New York. Effectivement, son manager... lui organise des visites et des sessions avec ses nouveaux croyants. Donc on le voit dispenser la bonne parole.
Bah ouais, c'est
ça. Un petit prophète.
Bah oui, du coup il y a pas mal de passages où les gens viennent pour avoir des conseils, pour vérifier que effectivement Grayson c'est bien le seul à pouvoir. Enfin, parce qu'il y en a qui sont un peu sceptiques, qui ne croient pas, ils se disent mais pourquoi lui, en fait, qui n'a rien de particulier, le Thunderhead aurait gardé le lien avec lui. Donc, c'est vrai que les gens, ils viennent, ils essaient de... Ils disent, mais non, vous êtes un imposteur. Et en fait, le Thunderhead, du coup, comme il parle dans l'esprit de Grayson, leur donne des informations que seul le Thunderhead est susceptible de savoir. Donc, forcément, les gens sont là, mais oui, en fait, c'est vrai. Donc, oui, il y a tout un truc sur un peu la religion et le fanatisme qui est en train de s'installer. Ça, on le comprend quand même vite.
Oui, parce qu'il y a différents profils. Tu sais, il y a un artiste qui veut essayer de trouver le sens à sa vie.
Il lui donne un sens.
Il y a une dame qui vient, qui est pareil, un peu perdue. Et puis, il y a un croyant. Lui, c'est, on va dire, littéral, fanatique, by the book, comme on dit. C'est vraiment les préceptes des tonistes, il faut les respecter à la lettre. Et même, il va un peu plus loin. Et c'est là qu'on commence à comprendre que, bon, il y a des petites dérives quand même.
C'est pas lui qui veut faire un attentat ou je sais pas quoi.
Mais oui, c'est ça. On le voit dès le début.
Oui, parce que j'avoue que ce livre m'a pas beaucoup marqué. Enfin, je l'ai lu il y a plus longtemps que Justine, donc j'ai une moins bonne mémoire. Mais oui, ça y est, je le trouve bien, ouais, effectivement.
Bref, en tout cas, de son côté, Grayson, c'est ce qui se passe pour cette partie-là. Mais du côté Godard, bon, qui est devenu Serpe suprême.
Bah, il s'est auto-proclamé, parce qu'il a buté l'ONU, en gros. C'est et ça. Puis il a fait « Non, mais en fait, c'est moi le patron. » Et oui, il prend la place, en fait, des cinq anciennes... elles étaient pas... Si, c'était Serpe suprême, comment ça s'appelait ?
C'est le Conseil mondial.
Oui, voilà, c'était ça, Conseil mondial. Oui. De l'Ordre des Faucheurs, je crois que c'était ça. Mm. Et lui, clairement, il veut pousser la nouvelle garde en avant, avec ses préceptes sur il n'y a pas besoin de respecter les quotas, ça te fait kiffer de buter 200 personnes dans ta journée, fais-le. Et forcément, il y a quand même, entre guillemets, les rebelles qui sont ceux de l'ancienne garde. Ils veulent garder les préceptes.
Ils existent toujours et on sent qu'ils ont basculé un peu du côté clandestinité. Ils sont plus... on sent vraiment qu'au pouvoir, maintenant, c'est seulement la nouvelle garde. Et Godard essaye de convaincre, tu sais, les régions voisines. Il fait un espèce... voire du monde entier, il fait un espèce d'appel pour qui, en gros, veut abolir les quotas, peut. Donc, il y a ceux qui vont suivre, les régions qui vont suivre et les régions qui vont suivre.
Moi, je trouve que là, après, le parallèle était un peu gros avec, je trouve, le régime nazi, tu vois. C'était un peu genre le grand méchant.
Ah oui, c'est un gros dictature.
Ouais, voilà. Et puis, l'oppression des peuples. Et puis, moi, je fais des règles qui respectent pas l'humanité, mais je m'en fous parce que moi, ma vision des choses est mieux que celle de tout le monde.
Ouais.
Donc, ça devient un peu c'est le grand méchant, de toute façon, de ce dernier tome. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un peu vu, quoi. Vu et revu. Pas trop de surprises. Mais bon, il joue bien son rôle.
Oui, finalement, ça va crescendo parce qu'il revient dans le tome 2.
Oui.
Il y a un coup d'état à la fin du tome 2. Et donc, effectivement, c'est un peu dans la suite logique des choses. Là, tu sens la quête de pouvoir, elle est un peu achevée. Et puis,
il en veut toujours plus, quoi. Ouais. C'est toujours grappiller plus. Donc, effectivement, on le retrouve en train de... vraiment dans le côté politique, j'essaie de convaincre les États voisins, voire les pays voisins, de s'associer à ce que je fais. Et puis ceux qui sont côté résistance et ne veulent pas rejoindre les préceptes de Godard.
C'est ça. Et puis en partance, donc on sait pas vraiment encore ce qui est arrivé à Citra et Erwan, mais à l'autre bout du monde, il y a Maître Faraday et Munira, qui sont un peu bloqués sur l'énigme de la salle. Ils sont un peu au fond du trou, ils savent plus trop quoi faire, juste ils vivent sur l'île sans moyen de s'en échapper. Et ils vivent là, mais...
Oui, c'est vrai qu'il y a le petit côté Robinson. Moi j'avais zappé, je me souvenais plus pourquoi ils pouvaient pas repartir, mais parce que du coup, il y avait pas de...
Ils ont plus de bateau. Il faut deux bagues pour actionner la salle. Et comme il n'y a qu'un faucheur, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas découvrir le secret.
Il y a un peu l'époque Robinson, où c'est vraiment l'île paradisiaque. On nous dit que Maître Faraday, il fait son petit potager, il cueille des arbres dans les fruits et tout. Bon, du coup, de leur côté, pas trop intéressant. Même si il me semble que Munira, elle continue quand même à investiguer dans la salle... qui contient des journaux de faucheurs. Donc elle continue à chercher des infos de ce côté-là, qui pourraient les aider peut-être à percer le mystère de la salle. Donc voilà, eux ils sont tous les deux paumés sur leur atoll et puis il se passe pas grand-chose.
Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il va pas se passer grand-chose avant très longtemps au final. Enfin, pour eux, dans ce livre-là.
Ouais. Bah même, moi j'ai trouvé que le début du livre il était longué.
Ouais.
C'était beaucoup de. Bon après, encore une fois, comme on l'a dit, là, on suit des personnes qui sont vraiment éparpillées, qui ont des centres d'intérêt, si on peut dire, différents. Donc c'est normal. Mais du coup, ça aide pas à se mettre vraiment dans le livre, comme les deux premiers, où vraiment les chapitres s'enchaînaient bien, et du coup, ça faisait un peu des cliffhangers à la fin des chapitres, et on revenait, enfin, ça te faisait bien patienter. Là, c'est un peu moins maîtrisé, je dirais. C'est un peu plus fouillis, même si, bon, après, on comprend que tout va se rejoindre à la fin. Mais au début, ouais, moi, j'ai trouvé ça long.
C'est un peu une situation d'attente, et en fait, c'est une attente jusque la partie 2, c'est le réveil de Citra et Rohan. Donc voilà, avec tout cette mise en place du contexte et des forces en présence, donc avec Maître Godard, Serpe Suprême, l'Amazonie qui était déjà une région qui s'opposait à lui du temps où il était pongeur, a gardé son autonomie et même plutôt contre sa politique. Et donc un des faucheurs amazoniens qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1, Maître Pozuelo, il va organiser donc un sauvetage. Alors au départ, c'est pas vraiment, il sait pas sur quoi il va tomber.
Oui, ils veulent juste récupérer justement le cœur d'Andura qui en fait contient les pierres pour les bacs des faucheurs.
Oui.
Et ça, c'est le trésor inestimable de la communauté des faucheurs, donc ils veulent absolument retrouver ce trésor.
Couper l'herbe sous le pied de Godard pour pas qu'il augmente ses effectifs.
Voilà, c'est ça. Et donc, Maître Pozuelo, il va se joindre du coup à un équipage et on rencontre un nouveau personnage.
Oui, qui est très intéressant dans ce dernier tome. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le capitaine Jericho Soberanis. Alors, quelle est sa particularité ?
Et ben la particularité de ce personnage, du coup, c'est qu'il est non-binaire, en fait. C'est dit dans le livre que, voilà, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce que d'ailleurs, les personnages lui posent la question, parce qu'ils ne savent pas comment s'adresser à cette personne. Et j'ai trouvé que c'était un peu poétique, la façon dont c'était mis. C'est parce que, voilà, donc, Jericho est capitaine sur son propre bateau. Et on nous explique que en gros, je crois que c'est elle est femme quand il y a le quand c'est la quand il y a la
quand il y a du nuage,
quand il y a des
nuages, quand il voit le soleil, c'est un homme. Par rapport au temps qu'il fait.
C'est ça. Donc et puis c'est un personnage qui est très mystérieux au final. Il est un peu ésotérique en fait.
Oui,
presque. Donc même dans sa façon de parler, c'est un peu énigmatique. Donc c'est un personnage qui est plutôt intéressant et c'est lui et son équipage qui va être en charge de faire cette mission de sauvetage et d'aller draguer les fonds sous l'île l'île d'Andura du coup qui a coulé, donc d'aller essayer de récupérer des choses.
En sachant qu'ils sont pas tout seuls. C'est un peu
Et oui, c'est vrai.
Ils sont course contre la montre parce qu'il y a d'autres expéditions qui sont montées par d'autres communautés
qui veulent aussi leur part du gâteau.
Qui veulent...
Oui, en plus c'était interdit, je crois qu'ils avaient fait un périmètre de sécurité en mode mais c'était Godard qui avait fait ça. Tu vois, j'avais complètement zappé. Oui, parce qu'il avait fait son petit périmètre de sécurité sous prétexte que c'était une zone de recueil.
C'est ça.
Alors que lui, il veut juste pas qu'on découvre le merdier qu'il a foutu, quoi. Oui, ça y est, je me souviens. Ouais, donc ils sont pas tout seuls. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer après ?
On sent quand même ça traverse un peu tout le livre. Je sais pas comment toi tu l'as senti. Alors à la fois très long à se mettre en place, mais sur certaines scènes, certaines actions, tu sens vraiment l'aspect course contre la montre.
Oui,
et ça fait partie de ces chapitres que franchement qui te tiennent vraiment en haleine. Tu sais, mais est-ce que ça va être les premiers vraiment à tomber dessus ou pas ? Enfin,
oui, et puis
vraiment une tension.
Ouais, qu'est-ce qu'ils vont trouver ?
Dans quel état ?
Voilà, dans quel état ? Parce qu'on ne sait pas trop. Ouais. Et au final, est-ce qu'ils trouvent quelque chose ?
Oui, ils trouvent quelque chose. C'est eux qui vont tomber sur le coffre-fort. Mais encore une fois, la scène, donc ils arrivent à remonter le coffre-fort, il y a des... on sait pas, il est en train de tomber, il faut faire vite, c'est un peu tendu.
Ouais, j'ai trouvé que c'était bien amené parce qu'ils le font de nuit pour éviter que les autres bateaux soient au courant et voient en fait ce qui remonte.
Oui.
Et Jericho, le personnage est malin parce qu'il fait croire aux autres que en fait c'est hyper dur de le remonter, machin, alors que pas du tout pour brouiller les pistes.
Ouais. Et à l'ouverture, pareil, il y a un petit subterfuge et Pozuelo et Jericho arrivent, ils ouvrent le coffre-fort, ils tombent sur Citra et Rohan, les cadavres des deux personnages, et en fait ils arrivent à les cacher au dernier moment. Et donc,
oui, avant
tout le
les
monde,
autres,
voilà, tout le monde arrive sur le bateau pour voir, et bah, finalement, il voit les bagues, les habits des premiers faucheurs, mais il voit pas Citra et Rohan.
Oui, parce que je crois que le subterfuge, c'était justement qu'il y ait une explosion, et en fait, ils ont fait croire que c'était deux personnes de l'équipage qui, en fait, en ouvrant la porte,
c'est ça.
C'était, enfin, étaient mortes, quoi.
Oui.
Donc, ils les ont planqués sous des draps, vite fait, bien fait, et puis c'est parti, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que là, on comprend vraiment que Maître Pozuelo ne s'attendait pas du tout à trouver les cadavres.
Ah, non, non, non.
Enfin, là, c'est
surprise.
Vraiment... Ouais, c'est le Kinder, quoi. J'avoue. Le Kinder. Mais ouais, donc on comprend qu'ils vont être emmenés...
En Amazonie.
Ouais, en Amazonie, pour être à l'abri, et surtout qu'ils vont être résurrectés.
Résurrectés.
Tout à fait. Ouais.
Et donc, alors, au premier abord... On sait que, enfin, il y a des chapitres qui commencent comme ça. Citra se réveille.
Oui.
C'est pas si Rowan est vraiment, mais
non,
Citra se réveille. Donc un peu perdu, déboussolé, forcément. Il y a des années qui sont passées et donc ils arrivent à la résurrecter, comme on dit, mais il y a quand même des petites séquelles, quoi. Elle doit réapprendre un peu tout à travailler. Aussi bien bah, sa force physique que le mental. Enfin, tu sens qu'elle revient de loin, que c'est pas anodin quand même
de rester mort aussi longtemps.
Non, non.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a Pozuelo qui... Alors moi, ça m'a un peu saoulée parce que j'ai... Enfin, des fois, j'aime pas quand ça piétine. Et là, il voulait pas lui raconter ce qui s'était passé pour pas la choquer, j'imagine, ou qu'elle ait repris des forces, etc. Moi ça m'a gonflé, j'avais envie qu'il lui raconte tout de suite que Godard il était en train de faire n'importe quoi et tout, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai qu'en attendant, donc Citra, on a beaucoup de passages où elle apprend des nouvelles au fur et à mesure, etc. Et par contre, qu'en est-il de Rohan?
Ben Rohan, oui, en fait Pozuelo est persuadé avec quand même une grosse partie de la communauté de faucheurs que le responsable de, bah, du drame d'Endura c'est Rohan. Parce que Godard a fait passer le mot, il s'est un peu, il en a fait un bouc émissaire. Mais donc Rohan donc a bien été ressuscité, mais lui par contre il était enfermé, donc il est au cachot.
Pauvre chou, lui il est vraiment dans les bas-fonds de l'Amazonie.
C'est ça. Et donc ils reviennent à la vie, mais ils sont encore séparés.
Oui, ils sont séparés. Alors après, je ne me souviens plus. J'ai souvenir qu'à un moment, ils vont devoir s'enfuir.
Oui, Godard apprend.
Ah, voilà, c'est ça.
Il y a un des gardes...
C'est une taupe.
Oui,
ouais,
un
voilà,
des gardes. Citra s'entretient avec un des gardes. Et ce garde, il n'est pas... Enfin, voilà, il n'avait pas vraiment fait son choix entre la nouvelle et l'ancienne garde.
C'est vrai.
Et il va aller poucave à Godard.
Eh oui. Et donc, ils font une opération gélienne pour les récupérer.
C'est ça. Et... Donc, Citra arrive à s'enfuir avec Jericho.
Oui,
dans un bateau.
Oui.
Mais Rohan est pris par la patrouille.
Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et oui, oui, oui. Donc retour
avec
dans
son...
les mains,
avec son maître d'apprentissage préféré.
Voilà.
Ah oh là là, oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie. Alors moi, cette partie, j'avoue que je l'ai trouvée quand même cool, même si c'est un peu bête de foire parce que donc là, Godard avait prévenu en fait toute l'assemblée qu'il allait remettre la main sur.
Oui, c'était un peu dans son clip de campagne.
Voilà, c'était ça.
Je m'engage, moi, président,
à retrouver...
À choper Rohan.
Comment il s'appelle, son faucheur maître?
Constantine, non?
Non, le nom de faucheur de Rohan.
Ah, Lucifer.
Oui, voilà. Donc, il avait fait, effectivement, dans son plan de campagne, oui, je rattraperai maître Lucifer, qui a torturé et tué des faucheurs et fait couler Endura. Donc, il va continuer sur sa lancée de promotion. Et en fait, c'est comme les meetings américains. Bon, après, c'est normal parce que l'auteur est américain, donc j'imagine qu'il s'est un peu inspiré de ce qu'il connaît.
C'est sa culture.
Voilà, c'est sa culture. Donc, Rohan, il va être baladé de ville en ville.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, en mode...
Coucou, salut.
L'ours qui fait du vélo, quoi. Pour que les personnes le voient et pour faire monter, en fait, la sauce sur la haine, en fait, autour de Rohan. en sachant que à la fin de cette tournée promotionnelle en Mid-Amérique, en fait, Juan va se faire exécuter dans un stade.
Oui, voilà.
Devant
l'apothéose.
Voilà, devant des milliers de personnes. Donc moi, j'ai trouvé que la mise en scène était bien, enfin que Godard avait bien joué son truc.
Oui.
Donc ça, j'ai trouvé ça cool dans le récit, même si bon, après voilà, le truc n'est pas cool en soi,
Mais tu vois bien où il a monté un peu mégalomane
oui, c'est du ça. Mec. C'est ça. Donc lui, il veut vraiment faire son beurre sur... en plus, il veut se positionner en sauveur.
Ouais, bien sûr.
En disant, attendez, regardez, il a fait couler en Dura,
c'est de sa faute. Sa couverture.
Voilà. Donc du coup, il y a toute cette tournée en Mid-Amérique qui termine au stade.
Mm-hmm. Ouais. Bon, après, oui, c'est dans une autre...
Mais...
Oui, un peu plus loin, mais oui, effectivement... On en reparlera de cette scène incroyable.
Oui.
Et donc oui, donc Rowan fait sa petite tournée promotionnelle avec Godard. Et pendant ce temps-là, l'étoniste, le clivage entre Godard et l'étoniste prend encore plus de place dans le récit.
C'est
quand il a terminé, ou juste avant sa tournée promotionnelle, c'est Godard, il a repris... Il a repris l'appartement de l'ancienne serpe suprême au-dessus de cette grande tour dans Fulcrum City.
Oui, oui, il a pété un câble.
Ouais, ouais,
il
dans
a
sa tour de quoi. Verre.
Mais oui, c'est fait une tour de verre après. Ah oui, mais enfin, non, c'est n'importe quoi.
Et il y a un moment, j'ai bien aimé aussi cette scène, où il se fait attaquer.
Oui.
Dans sa tour, il y a les tonistes.
Oui.
Les tonistes qui font une... Un raid sur sa tour vitrée là, et tu le vois, la petite souris là piégée dans son cube de cristal,
ouais,
qui a peur et tout ça. Il a vraiment, tu sens vraiment qu'il aurait pu y passer, et à partir de ce moment là pareil, il serre la vis encore plus,
il devient un peu paranoïaque,
ouais.
Quelle idée déjà de se faire construire un appartement en giga tour en verre,
c'est vrai.
Enfin, vraiment, tu vois tout, sauf dans sa chambre, parce que monsieur a sa petite intimité. Mais oui, en fait, on voit clairement qu'il est en train de prendre un énorme boulard. Et ça se voit, je trouve, notamment dans la scène où, en gros, quand ils ont remonté le coffre d'Endura, il y avait donc toutes les pierres des faucheurs qui ont été divisées, en fait, par rapport au nombre d'étages. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, il a, dans sa grande magnanimité,
il a distribué. Et en fait, en retour, pour prouver leur allégeance, il y a certains états de Mid-Amérique ou de pays voisins qui ont donné, en fait, leur quota de pierres directement à Godard. Et en fait, il y a une scène dans le livre où il est vraiment en train de se vautrer dans les pierres, tu sais, dans son lit, là.
C'est vrai.
Je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment... Le gars, il est... Ça y est, il est parti, quoi, dans son délire. Mais oui, c'est vrai que cette scène, on se rend compte que finalement, l'étoniste, c'est aussi une... Ça va être une source de problème pour Godard. Voilà.
Et justement, c'est suite à cette attaque qui va charger un de ses proches conseillers, Maître Constantine, d'aller tuer Grayson.
Et oui, moi, j'adore Maître Constantine. On l'avait déjà aperçu dans le livre 2, quand il faisait le conclave. Parce que voilà, il y a des faucheurs dont on a les noms, mais rapidement. Et lui, en fait, dans le livre 2, il essayait un peu de draguer Citra.
Citra, ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
Oui.
Et ce qui est très drôle, du coup, avec ce faucheur, donc, c'est qu'on comprend qu'il est quand même relativement jeune. Donc, il doit avoir l'âge de Citra et Rowan, donc c'est-à-dire une vingtaine d'années à peu près. Et il a une robe en jean avec des strass, parce que du coup il est de la nouvelle garde, donc il a quand même des pierres et tout. Et ouais, moi j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Je me suis dit vraiment la dégaine qu'il doit avoir avec sa cape en jean et tout. C'était un peu marrant.
Et donc il infiltre, Constantine infiltre le groupe de tonistes autour de Grayson à New York. Et pareil, il y a encore une scène où, un peu comme Godard, où du coup Grayson se balade la nuit, il va chercher une petite douceur à se mettre sous la dent.
Oui, il a la dame.
Il va chercher un gâteau.
Oui, c'est vrai.
Donc Constantine se fait passer pour le nouveau cuisinier.
Ouais,
alors, c'est pâtissier. Très drôle. Oui, le pâtissier, c'est vrai. Donc il fait ses petits trucs. Je ne sais plus d'ailleurs, il a un dessert signature. Bref. Et donc Grayson se balade comme ça de nuit, tranquillement dans son monastère. Il va chercher sa petite pâtisserie. Et donc c'est là que Constantine choisit d'attaquer. Et donc est-ce qu'il va le tuer ou pas? Finalement, il va faire son choix. Et il choisit de rallier de leur allié Grayson.
Oui, et ça, c'était bien amené dans le livre aussi, parce que, en fait, encore une fois, le Thunderhead ne peut pas intervenir dans les affaires des faucheurs et des autres personnes. Donc, il ne pouvait pas prévenir directement Grayson qui avait des problèmes, qu'elle allait y arriver. Parce que le Thunderhead, même s'il ne parle plus à l'humanité, il voit quand même tout. Donc, il est au courant de tout, quoi qu'il arrive. Donc, il avait mis en garde un peu Grayson en mettant l'eau du bain super chaude.
Oui,
c'est que des
trucs. T'es sûr que tu veux aller manger quelque chose?
Oui, enfin, voilà.
Il avait tourné.
Et en fait, au final, moi, je pensais que Grayson n'avait pas compris, qu'il était un peu teuteux et que du coup, il se... Enfin... Après, ceci dit, moi non plus, je comprenais pas pourquoi le Thunderhead essayait de... Enfin, c'était bien amené, du coup.
Oui, c'était bien dosé, ouais.
Donc, c'est vrai qu'au final, quand... Maître Constantine essaie de le buter et qu'au final il lui plante sa fourchette dans l'œil.
Oui.
Dans l'œil. Et bah c'est là du coup il lui offre le choix de pour te racheter. Mais en fait il le fait un peu avec l'aide du Thunderhead parce qu'au final il lui donne des infos
sur lui
et pour le rallier. Et Constantine du coup va dire je deviens ton garde du corps au final.
C'est ça.
Voilà. Mais il se fait passer pour mort auprès de Godard.
Voilà.
Donc, et ça, c'est très fin.
A priori, donc, on sait... Godard, en fait, Constantine ne revient jamais auprès de Godard. Et en fait, il y a tout un... quelque chose qui est monté, comme quoi, voilà, il y a eu un feu, une explosion, quelque chose, encore une fois, et que Constantine et Grayson seraient morts tous les deux.
Voilà, ce qui fait bien les affaires de Godard.
C'est ça. Et donc, une petite équipe va se monter en parallèle avec Grayson, Constantine, le manager... Et une de ses proches conseillères.
Oui.
Donc, eux, ils vont partir. Et silence radio, en tout cas, pour le moment. Donc, voilà cette partie sur les lettonistes et Godard. Mais effectivement, tu sens que la tension, elle monte de plus en plus. Et c'est là où on arrive entre les... Avec comment le... L'attaque de Godard... Enfin, l'attaque, non. L'exécution planifiée de Godard.
Oui.
Donc, dans le stade, l'exécution de Rohan. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, dans cette... comment c'est amené? Est-ce que t'as bien aimé cette scène?
Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé
jusqu'au bout, encore une fois. Oui, cette tension maintenue dans la scène.
Là, c'était hyper bien amené. Si le début du livre était mou, à la fin, c'est beaucoup mieux.
Ça s'enchaîne, ouais.
Heureusement, parce que sinon, ça aurait été un calvaire. Et en fait, c'est très Super Bowl. C'est vraiment Super Bowl, moi, j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai.
Donc, au final, ils font un énorme bûcher au milieu du stade qui va être plein à craquer, hein, parce que les gens, forcément, ont payé en plus pour venir, ou alors ont été invités. Et il y a une scène que j'ai trouvée très drôle, c'est qu'en fait, le gars qui est en charge de faire le brasier... Il explique en fait à Rohan qu'il a mis tel type de bois parce que ça fait des jolies flammes bleues, parce que là ça brûle bien, ça crépite et tout, ça fait du bruit. Genre vraiment, le truc c'est le spectacle. C'est un maître artificier du bois. Donc Rohan il est en train de se dire putain, ça y est, mais je vais griller et tout. Et il y a aussi Dame Rand qui est toujours aux côtés de Godard, toujours fidèle.
Toujours fidèle.
Jusqu'à quel point?
Jusqu'à quel point? Alors, on sent quand même que bien que Godard a. Mène la communauté des faucheurs avec une main en main de fer, tu sens quand même que ces décisions, elles sont pas... elles sont acceptées, mais elles sont quand même...
Ça commence à être clivant, en fait, pour elle. Même si elle était vraiment... c'est un peu sa fan numéro 1, c'est son bras droit qu'il arrive. Mais en fait, il commence à avoir tellement un... Comment dire? Oui, il a le boulard, quoi.
Il s'idole vachement.
C'est il fait ses trucs, il s'en fiche, il prend pas en considération de ses remarques ou quoi. Donc elle se sent vraiment mise à l'écart. Et surtout, ça, dans le livre, il y a une espèce de petite trame qui est faite sur... au final, elle regrette d'avoir tué Tiger. Parce qu'elle s'était attachée à lui. Et en fait, des fois, elle fait des excursions. En fait, elle dit pas à Godard où elle va, mais elle. Alors ça, c'est un concept qui était hyper intéressant dans le livre.
Ouais, mais qui a pas été développé, enfin à part dans ce. Avec Dame Rand et dans le tome 3.
C'est ça. Et du coup, c'est quoi ce concept?
Il y aurait des centres mémoriels aux quatre coins du monde. Les plus dans des endroits très reculés, très inhospitaliers, genre en Antarctique ou au sommet de la plus grosse montagne. Et en gros, ça permettrait de discuter avec les morts, enfin de discuter avec ce que le Thunderhead a enregistré de leur vie.
C'est ça, donc comme Dame Rand, elle est un peu. Bah, en fait, on comprend qu'elle est triste, elle s'était vraiment attachée à Tiger, donc elle retourne du coup voir cette mémoire enregistrée. Sauf que malheureusement, ça lui fait autant de bien que de mal parce que Tiger ne la connaît pas.
Oui.
C'est l'enregistrement, il date comme ils étaient au Texas, il n'y avait pas d'enregistrement, enfin, comme c'est pas vraiment sous la juridiction du Thunderhead, bah, au final, Tiger, il a aucun souvenir de Dame Rand. Donc voilà, elle y va pour se faire mal autant que se faire du
Oui.
bien. Donc, mais c'est vrai que le concept était intéressant de pouvoir retourner en fait discuter avec la conscience enregistrée d'une personne qui serait décédée. Donc voilà. Et Dame Rand, au final, c'est elle qui va sauver Rohan.
Encore une fois, parce qu'elle l'avait libéré.
C'est vrai. Et donc elle va s'y prendre d'une chouette manière. Enfin, en tout cas, c'est assez subtil. Moi, je pensais vraiment qu'il allait cuire là.
Ouais, pareil.
Je
Je suis allée,
pensais.
c'est bon, finito. Finito,
Ouais, voilà, je me suis dit, ça y est, la merguez est partie là. Et en
bipo.
fait, au final, en plus, surtout qu'elle l'attache. Et elle lui dit, parce que Juan, au final, là aussi, c'est bien amené. Il y a vraiment la peur de la mort qui se rapproche quand tu sais, en fait, que tu vas mourir. Et surtout avec le feu, ça doit être horrible. Donc elle lui dit, je te conseille de respirer les fumées, comme ça va te t'étourdir en fait, et tu seras déjà parti, en fait, tu t'asphyxies avant de brûler. J'étais là, ouais, c'est un bon conseil. C'est vrai que quand t'es rendu là, c'est pas mal. Donc elle lui conseille ça, donc je me dis, bah, c'est sûr, il va crever, quoi. Et au final, plot twist.
Plot twist. Alors comment, je me rappelle plus comment il arrive vraiment à. Je sais qu'il switch avec l'artificier. Est-ce que
Oui.
c'est l'artificier qui crame?
Ben, en fait, je crois qu'elle lui dénoue les liens et que lui, après, il fait le.
Il fait son
Voilà, il
taf.
dit, allez, je mets quelqu'un d'autre. Et ouais, c'est assez jouissif parce que du coup, Godard s'en
Et
aperçoit.
oui, retransmission publique,
Oui,
et du
public à
coup,
grande
et
échelle.
oui, du coup, échec public aussi.
C'est ça. Donc là, il est dégoûté parce qu'il s'aperçoit que ce n'est pas Rohan, c'est l'artificier qui a bien les chocottes, parce que lui, en plus, il sait comment il a fait son brasier, donc il se dit, oulala. Et qu'est-ce qui va se passer?
Et oui, bah alors du coup, forcément, ça l'a blessé, mais sérieusement, dans son ego. Et donc, Godard va fermer les portes du gymnase et donc va demander à tous les faucheurs présents de massacrer tous les spectateurs qui sont réunis.
Voilà,
Et voilà.
massacre de masse.
Voilà. Des milliers, des centaines de milliers de
Ah oui,
personnes.
parce que le stade était plein à craquer, hein,
Oui,
donc
oui.
je ne sais pas s'il donne un ordre d'idée, mais voilà, si c'est un stade vraiment comme on les voit en Amérique, c'est énorme le nombre de personnes qu'il y a. Et ils finissent par arrêter, bah, forcément la retransmission, hein, parce que. Donc voilà. Ah là là. Donc, ouais.
Oui,
Pff.
donc il y a cette scène vraiment apothéose où Rohan arrive à s'échapper
Tout à fait.
et où Godard pète les plombs.
Bah ouais, là, il.
Littéralement.
Ah ouais.
Et donc on arrive, on switch après, on retrouve le groupe de Grayson. Le groupe de Grayson
Oui.
qui. Alors il y a deux choses qui se passent en parallèle à peu près au même moment. Donc Grayson qui vit avec tout le monde sous le manteau. Le but c'est il faut pas qu'il se fasse repérer, mais eux en gros le Thunderhead elle leur a donné une mission. Il a avoué à Grayson que potentiellement les Tonistes extrémistes allaient faire foirer son grand plan final.
Ah
Et donc du
oui.
coup ils sont chargés d'aller faire quelques apparitions miraculeuses
Oui.
auprès de ces sectes pour les remettre dans le droit chemin.
Ouais.
Donc voilà, ils vont naviguer un peu de pays en pays, de secte en secte, et ils finissent par entendre parler d'un projet d'attentat dans la région constituée autour du Sénégal. Et c'est là où Jéricho et Citra ont trouvé refuge également. Et donc ils vont, l'attaque va quand même se passer. Les Tonistes vont mettre à sac la communauté des faucheurs là-bas. Citra y échappe de justesse et ils vont finir par se retrouver dans une grotte. Tu sais, ils sont.
Oui, c'est vrai, là, oui, ça je me souviens. Je me souviens aussi de la scène où elle s'échappe du toit, de bah, justement qui est
Ouais,
pris
mission
d'assaut.
impossible.
Oui, c'était un peu Mission Impossible
Oui.
avec on se fait emmener par les petits vaisseaux là qui t'emmènent
Oui.
pour te faire résurrecter. Oui, ils se retrouvent dans la grotte et c'est là où bah, ils remettent un peu. Bah, ils font un update.
C'est
Ils sont
ça.
là, alors qu'est-ce qui s'est passé
Qu'est-ce
dans ta
qui s'est
vie?
passé?
Bah écoute, j'ai ressuscité. Je me souviens plus trop de cette partie. je sais plus.
Ah bah oui, il y a tout, il y a ces retrouvailles, un peu cette mise au point, et c'est là que le Thunderhead indique du coup à Citra et Grayson la localisation de Maître Faraday.
Ah oui, c'est vrai qu'il leur dit où est l'atoll, effectivement. Et du coup, ils vont partir là-bas.
Ils vont partir là-bas, en sachant que c'est pas les premiers à retrouver Maître Faraday et Munira, parce que entre-temps, comme on avait vu dans la première partie, le Thunderhead a coupé les ponts complètement avec l'humanité. Donc l'administration de l'IA avec les agents Nimbus était complètement paniquée.
Bah, ils savaient plus rien à faire, quoi.
Mais il y a quand même des petites. Il y a surtout un personnage secondaire qu'on ne développera pas forcément dessus, mais on sait qu'il y a des livraisons. Il y a une livraison, il y a certains agents Nimbus qui sont chargés d'assurer la livraison de matériel. Ils partent dans des bateaux, ils savent pas où.
Oui, mais en fait, on leur passe des... mais oui, c'est vrai, on leur passe des commandes, entre c'est guillemets. Ça. Et en fait, c'est le Thunderhead qui fait sa popote, quoi. Ouais. Parce qu'il parle plus aux gens, mais il est quand même... Enfin, il fait en sorte que le tout, le minimum...
Les gens soient occupés.
Voilà. Il pourvoit aux besoins nécessaires. Et c'est vrai que oui, il organise... D'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces bateaux.
On le sait très tard, ce qu'il fabrique. Enfin, le grand plan final.
On le sait très tard. Et... Ah si, mais il y a une scène qui est cool aussi, là, quand ils font transiter justement la marchandise de... on ne sait pas ce que c'est. Où, tu sais, ils essaient d'amadouer le chef du port pour justement qu'il laisse passer la cargaison sans rien dire, et qu'en fait il colle, enfin il appelle, c'est une balance, et il colle un mouchard sur le bateau pour savoir où va ce bateau, parce qu'il n'a pas de plan de navigation, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, purée, en fait, c'est un vendu.
Et oui, donc il y a des cargaisons qui sont envoyées sur l'île, donc avec... pour retrouver Munira et Maître Faraday, donc à tous les moments, la rencontre avec les agents Nimbus, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde,
c'est ça, ils ont des nouvelles comment va la vie,
voilà, ils apprennent qu'Andura est a coulé, que Citra, Rowan et Dame Curie sont décédés. Maître Faraday, là, il est, tu sais, il est au bout de sa vie.
Bah là, il fait une dépression.
Ouais, clairement.
Il fait une dépression.
Voilà, donc il prend...
Ermite.
Voilà.
Il dit, non, mais je me
deviens,
casse.
Il se casse sur une île tout seul et il n'y a personne qui doit l'emmerder.
C'est ça.
Et donc, les gens déchargent du matériel, ils construisent des complexes. On sait qu'il y a des logements, mais on sait aussi qu'il y a des énormes. On ne sait pas si c'est industriel, il y a des complexes qui sont formés.
D'ailleurs, il n'y a que une des premières agents Nimbus qui voit en fait les plans finaux.
Oui,
et du coup, elle comprend pas non plus l'intérêt, mais il passe un long moment à se dire, non, mais c'est ce qu'il fait, donc je le fais quand même.
Voilà, c'est ça. Elle est au courant. C'est la seule à être au courant de ce que c'est.
De ce que c'est. Mais après, au fur et à mesure, tu... Oui. Voilà.
Mais le lecteur n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'on sait pas ce qu'elle a vu du Thunderhead et des plans.
Et voilà, donc on sait pas ce qu'elle a compris. Donc, ils construisent un truc, mais on sait pas quelle est sa vocation.
Non.
Moi, je pensais que c'était un peu un Endurabis.
Ok, oui.
Au départ. Donc, je savais pas trop.
Et donc, tout le monde se rejoint finalement. Voilà, ça fait partie du dénouement de l'histoire. Tout le monde se rejoint à l'atoll. Donc, t'as d'un côté Grayson et Citra qui arrivent dans cet atoll. Il y a déjà tout un complexe qui a été créé.
Oui, il y a une nouvelle. C'est carrément une nouvelle ville avec des gens qui sont
arrivent là. Ils vont retrouver évidemment Maître Faraday. Les retrouvailles avec Citra.
Elles sont hyper émouvantes.
Très émouvantes.
Ouais, c'est vraiment son papa.
Ouais.
Un petit peu.
Et Rowan, comment il arrive alors?
Purée, mais oui. Alors attends, si je me souviens bien, Rowan, lui, il a réussi à s'échapper
De Godard.
Voilà, il s'est échappé de Godard. Et en fait, il a eu des instructions quand il est monté dans un taxi.
C'est ça.
Et les instructions, c'est prends un manteau chaud.
Et rends-toi. Au port
et va dans cette cargaison, bateau.
Ouais.
Et donc, il va dans le bateau et il est entouré de. Je sais pas s'il soulève ce qu'il y a dessous.
Alors, il soulève, on sait pas tout de suite, on l'apprend quand il arrive. Quand il descend du bateau.
Et alors, en fait, effectivement, les cargaisons qui sont envoyées, un peu spéciales, sont des cadavres.
Des gens cryogénisés.
Ouais, tout à fait, qui sont bien au frais là. Ouais.
Alors, ils viennent d'où ces gens cryogénisés? Je sais plus. Depuis que Endura a coulé, en fait, tous les certaines personnes fauchées, glanées par les faucheurs, ne sont pas mortes définitivement. Le Thunderhead les a gardées, les a cryogénisées pour les envoyer à l'atoll.
Oui, c'est vrai. Et là, moi, j'avais une théorie parce que, en fait, dans le livre, mais comme dans les autres, il y a des petits passages sur. Il y avait des extraits des journaux des faucheurs.
Oui.
Et là, il y avait des extraits, en fait, de discussions, en fait, du Thunderhead.
Entre lui.
Voilà. Mm-hmm. Et moi, je pensais, en fait, qu'il était en train de créer des consciences pour les mettre, du coup, dans les personnes qu'il allait ressusciter.
Oui.
Je pensais que c'était ça, le truc un peu final. Bon, au final, c'était pas ça. Même si, bon, il y a un peu de vrai, mais non, en fait, c'était pas ça.
Oui, moi, j'avais anticipé un peu la même chose que toi. Je m'étais dit, c'était tellement la réflexion autour de l'IA et des sentiments, enfin, de ce qu'elle peut ressentir, c'est tellement poussé que je m'étais dit, bon, bah, la fin, ça va être l'incarnation d'une IA en être de chair, quoi.
Ouais, mais non, moi, je... Non, moi ça, j'étais sûre que non, parce qu'il l'avait dit, le jour où je prends vraiment, il faut que je reste un peu dans le subconscient et que j'ai pas de forme, sinon les gens ils vont faire comme Grayson, ils vont me vénérer ou essayer de m'amadouer et non, moi ça c'était pas ma théorie, mais c'est vrai que ça aurait pu.
Et donc tout s'accélère dans les dernières pages du bouquin, parce que tout le monde se rejoint au même endroit, le mouchard de Godard est en place.
Avec le gars du port,
il sait très bien où ils sont, donc il va envoyer une armée. Et du coup, le plan final, finalement, du Thunderhead, on l'apprend très tard. Et donc, lui, ce qu'il a imaginé, le Thunderhead, pour l'humanité, c'est quoi? C'est quoi la rédemption qu'il a imaginée pour l'homme?
Eh ben, en fait, il a prévu de... c'est le voyage dans l'espace. En fait, il a fait des calculs de probabilité pour savoir quelle planète serait le plus facilement, entre guillemets, atteignable. Donc, on comprend que c'est normal que les corps soient cryogénisés parce que le temps de voyage se compte en années-lumière. Donc, une personne ne peut pas rester vivante pendant tout le trajet. Donc, en gros, il envoie des capsules pour peupler, en fait, de nouvelles terres. Et loin, en fait, de, comment dire, la folie qui, par exemple, habite Godard. Donc, c'est ça, le plan.
Le plan, du coup, sur l'île, c'était de construire des fusées pour les envoyer dans l'espace. Donc, c'est ça. Ce qui a été monté un peu. Donc, finalement, le salut de l'humanité ne se fera pas sur Terre.
Ben non.
Il se fait ailleurs dans l'espace.
Trop moisi la Terre.
Non. Et donc il se fera à la fois avec des hommes et à la fois avec l'intelligence artificielle, puisque le Thunderhead arrive non pas à s'incarner mais à se multiplier.
Oui, en fait il a entraîné du coup, c'est ça les petits chapitres intermédiaires où moi je comprenais pas trop, je pensais que c'était, moi j'étais persuadée que c'était justement la création du Thunderhead et que c'était des récits antérieurs. Et en fait, non, c'est le Thunderhead qui entraîne du coup ces nouvelles intelligences artificielles à être bienveillantes et en fait à être à un niveau aussi élevé que lui l'est. Oui. Parce que lui, en fait, ne va pas partir. Si, il part dans un vaisseau ou pas?
Je ne sais même plus.
Non, il reste. Et du coup, lui, il envoie entre guillemets ses enfants dans chaque vaisseau. Et après, ça va être à chacun de refaire une humanité.
C'est ça. L'IA entraînée par l'IA.
Ouais, c'est un peu ça. Et c'est Adam et Ève qui s'en vont pour repeupler un peu.
Tout à fait. Et donc là, encore une fois, course contre la montre, l'armée de Godard arrive
pour bombarder. Oui,
ils arrivent avec des grosses bombes. Ouais. Et donc, ça pète de partout. Du coup, qui part, les agents d'Imbus qui sont sur place, ça va se faire un peu, le choix se fait un peu dans l'urgence.
Ouais.
Il y en a qui vont monter par choix, il y en a qui vont monter dans l'urne pour s'enfuir, il y en a qui vont partir dans des bateaux, il y en a qui vont essayer de monter mais ne vont pas y arriver, parce que Godard fait exploser quelques fusées.
Il en bombarde quand même 2-3, donc y en a qui partent pas. Et du coup, on ne sait pas si Citra et Rohan restent ou partent, ou s'il y en a un qui part et l'autre qui reste. Et au final, ils choisissent.
Jusqu'au dernier moment.
Oui.
Donc il y a ceux qui restent déjà. Est-ce que tu te souviens?
Je me souviens pas du tout.
Il y en a deux qui restent.
Jéricho.
Ouais.
Jericho et Grayson. Et... Ah, mais oui, parce qu'il y a une petite love story. C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, ils sont sur la plage, là, c'est un peu gnangnang, voilà. Mais en même temps, c'est un peu mimi. Donc...
Ok, donc, il reste.
Oui, c'est vrai.
Oui, il reste. Citra et Rowan décident de partir. Et donc, juste au moment où ils atteignent la porte d'une fusée, Godard les rattrape. Il va, je sais plus si c'est par une bombe ou il va rafaler. Mm. Et là, Citra tombe.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui.
J'avais oublié.
Citra tombe. Rowan arrive désespérément à la traîner dans la fusée. Elle a cryogénisé in extremis. Et en fait, ils savent pas la navette, en fait, quelle navette ils ont prise, pour combien de temps ils vont partir. Et
oui, parce que les navettes, elles ont un taux de remplissage, donc c'est vrai que comme ils savent qu'ils vont se faire bombarder, les gens se dépêchent d'aller à la plus près. Donc tu sais pas dans quelle navette, dans quelle fusée tu pars, et tu sais pas en fait ces pourcentages de chance.
C'est ça.
Or que ça, le lecteur du coup en est informé, puisque du coup il y a un chapitre, je sais pas si
un tableau.
Ouais, il y a un tableau avec du coup la probabilité d'arriver sur la planète.
Et le bouquin se termine comme ça. Ah, il y a un petit épilogue.
Il y a un tout petit épilogue.
Moi, est-ce qu'on garde la surprise? Ils iront lire.
Ah non,
tu veux quand même dire. Okay,
bah okay. Ouais, on est arrivé jusque-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épilogue?
Eh ben, dans cet épilogue, on est des centaines d'années plus tard.
Bah oui, ça voyageait à la vitesse de la lumière.
À l'arrivée de la navette. Et donc, un peu comme au début du tome 3, sur le chapitre avec Citra. Citra se réveille. Et donc là, qui c'est qui l'attend?
Rowan. Oui, parce que lui, il est resté éveillé tout le long du trajet, parce que bon, voilà, comme ils sont immortels, quand même, ils peuvent faire le trajet. Mais
il fallait qu'il reste réveillé, parce que ça, c'est une consigne du Thunderhead. Il lui a dit, non, tu peux pas t'endormir aux côtés de Citra, il nous faut un meneur d'hommes.
Voilà, c'était le capitaine de la fusée, donc du coup, lui, il a dû passer des centaines de milliers d'années sans elle. À l'attendre qu'elle se réveille, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu émouvant, et la scène de l'épilogue était chouette. Après, c'est vrai que ça pose des questions, où est-ce qu'ils sont, comment ça va se passer et tout.
La fin est très ouverte.
Voilà, c'est ça. Mais ça clôture bien, du coup, la trilogie. Donc,
Ah, tu trouves que ça... Oh, bah, du coup, on va avoir un petit débat.
Ah, c'est vrai, je trouve pas que ça clôture bien.
Ça la clôture bien ou pas.
Après, moi, le seul truc que j'ai pas... En fait, le voyage dans l'espace... Bon...
En fait, ouais, j'ai trouvé que c'était très loin du pitch de départ. En fait, c'était effectivement, ça fait une fin très ouverte. Mais pour moi, l'histoire, elle n'est pas clôturée. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, on l'a pas dit, mais ce qu'il arrive à Godard est blessé. Il est blessé dans le
l'exercice de ses fonctions,
effectivement. Et Damrand va trouver sa petite vengeance.
Ah, mais parce que, c'est vrai que j'avais oublié.
Il en est dans un centre de résurrection. Mais est-ce qu'il va résurrecter en tant que Godard ou quelqu'un d'autre? Parce qu'on le rappelle, il est dans le corps de quelqu'un d'autre.
Donc, qui se réveille? J'avais complètement zappé.
Celui qui se réveille à la place de Godard.
C'est Tiger. Mais oui, elle lui a remis sa mémoire.
Ouais, c'est ça.
Et oui, ah, j'avais complètement zappé. Trop bien.
Une petite vengeance personnelle de Damrand, méfait accompli.
Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu satisfaisant de dire que il est quand même... il est mort, quoi.
Ouais. Donc oui, une fin très ouverte. L'idée de l'espace arrive très tard, selon moi. Alors, raccrocher un peu, on va dire, au cordeau. Enfin, on sait que, du coup, c'est Godard qui a fait foirer les plans de colonisation sur la Lune, mais... Dans ce tome 3, finalement, ça arrive que maintenant, c'est une explication...
Ouais, c'est un peu bancal.
Ouais.
Parce qu'il y a, il y a tout un truc sur une enquête, que, voilà, il y a quelques temps, le Thunderhead avait déjà essayé de coloniser l'espace, et en fait, ça avait été échoué, et on apprend que c'était Godard, dans ses jeunes années, qui avait fait en sorte de faire péricliter le truc, et que c'est pour ça que le Thunderhead, depuis, n'avait pas réessayé, parce que, du coup, il pensait que c'était de sa faute, et qu'il avait buté les personnes qui étaient parties coloniser...
C'est ça.
La Lune et Mars, non, c'était pas ça?
Oui, c'est si, ouais.
Donc voilà, bon, ça c'était un peu.
Il y avait une enquête.
C'était pour amener un peu le truc.
Oui, c'est ça. C'est ok, c'est logique, c'est bien expliqué et tout ça, mais pour moi ça arrive un peu tard. Et finalement, oui, tu t'attends à une solution sur Terre, quoi. Une solution au conflit qui finalement n'arrive pas. C'est pas déçu, mais pas. pas non plus. Effectivement, l'histoire pourrait continuer. J'aime bien les fins ouvertes. Je suis pas contre.
Ouais, moi non
dans
plus.
La littérature.
J'avoue. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop. Enfin, la fin m'a pas surprise dans le sens où je sais pas si tu as déjà vu le film Prédiction.
Non.
Et ben, le plot c'est vraiment ça.
Okay.
C'est ça va être la fin du monde. Bon, là, c'est dans le cas où le soleil devient énorme et du coup va exploser et brûler la Terre. Et à la fin, c'est pareil, c'est des voyages dans l'espace. Désolée si vous n'avez pas vu le film, je spoil. Mais du coup, ça m'a pas surpris. C'est vraiment des capsules où ils envoient du coup des enfants et des animaux pour repeupler des planètes.
Arche de Noé, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas trouvé que le truc était hyper novateur. C'est vrai que c'est un peu amené avec les gros sabots.
Oui.
C'est un peu tiré par les cheveux. Mais en même temps, je sais pas trop comment ils auraient pu faire différemment. Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient trouver le... Si, ils ouvrent la salle.
Oui, ils ouvrent la salle,
quand
effectivement.
Même. Ça, on l'a pas dit.
Non, on l'a pas dit.
Et je me souviens plus ce qu'ils trouvent.
Enfin, je l'ai plus non plus.
Ça devait pas être très marquant,
non.
Visiblement. Mais moi, je pensais qu'ils auraient trouvé un truc qui, entre guillemets, remet la Terre comme elle était avant. C'est-à-dire que ça enlève...
Un reboot.
Voilà, c'est ça. Exactement. Je pensais que ça serait ça, et que du coup, l'humanité aurait une deuxième chance d'apprendre de ses erreurs et de refaire quelque chose, enfin, de réapprécier la vie pour le temps qu'on lui donne.
Oui, ok.
Donc, je pensais que ça serait ça.
Ah, mais c'est pas ça, genre de désactiver les nanites ou je sais pas quoi, les nanites, redonner la mortalité.
Eh ben, je ne sais pas.
On vous laissera aller regarder.
Voilà, vous regarderez parce qu'on ne se souvient plus. Mais oui, oui. Après,
ouais, ouais. Bon. C'est vrai, c'est ça. Et donc, bilan, quand même. Est-ce que cette trilogie, tu l'as bien aimée?
Oui, alors voilà. Mon tome préféré, ça reste le premier, parce que c'est celui qui introduit le mieux, du coup, tout l'univers. J'ai trouvé que là, c'était vraiment surprenant. La communauté des faucheurs, c'était un concept hyper intéressant. Le deuxième, bon, voilà. Le troisième, au final, c'est celui que j'aime le moins. Parce qu'il est trop long. Le découpage est un peu... voilà. Mais non, sinon, la trilogie, elle est quand même super.
Non, on va lui enlever ça. Très bien, ouais. Très bien. Moi, je classe le 1 en premier aussi, le 3 en 2 et le 2 en 3.
Ouais.
Pour des raisons que je vous laisserai écouter.
Oui, oui, c'est vrai que l'épisode 2, ouais, le livre 2, t'as pas trop emballé.
Oui, au niveau de l'intrigue plutôt. Mais non, mais très bonne série. Et donc, on voulait parler, pour clôturer un peu cette trilogie.
Il y a une adaptation en film. Voilà,
effectivement, on voulait parler de ça.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est dit en fait dans les couvertures, dans les quatrièmes de couverture des livres. Comme il a eu un bon succès, Universal Studio a approché l'auteur pour en faire une adaptation, qui apparemment est toujours en cours ou n'a pas...
Bon, en tout cas, ça n'a pas évolué, ça fait très longtemps.
Ouais.
On vous laisse checker le wiki et les Reddit, mais on a beau chercher,
il n'y a pas trop
l'air d'avoir d'actu.
Alors que les gens ont l'air plutôt impatients, parce que c'est vrai qu'en film, ça serait incroyable. Et avec Justine, on s'est posé la question de qui on verrait pour interpréter du coup les rôles de Citra, Rowan, Maître Faraday et...
Dame Curie,
oui,
tout
voilà.
À fait. Donc, on ne s'est pas spoilé en plus, donc ça va être une surprise.
Ouais, moi je ne sais pas. Du coup, tu vois qui pour Citra?
On commence par Citra.
Ouais.
Ok. Ah, c'était un peu le débat, est-ce qu'on choisit des acteurs, parce qu'ils sont plutôt jeunes dans le livre, entre 18 et la vingtaine d'années. Donc est-ce qu'on choisit des acteurs qui sont jeunes aujourd'hui, mais pas forcément de notre génération, ou alors des acteurs de notre génération qu'on pense coller, qui étaient plus jeunes avant et qu'on pense qu'ils collent bien. Moi, j'ai choisi plutôt une actrice de cette génération-là. Alors, très connue. Donc, peut-être... je sais pas, peut-être pas étonnant, mais je trouve que elle incarnerait bien, je sais pas, une espèce de douceur, d'action, et en même temps de caractère. Je pensais à Millie Bobby Brown.
Ah ouais,
okay.
Ouais. Ah ok, j'aurais pas du tout mis ça.
Mais j'avais une autre.
Ah oui.
J'avais aussi Anya Taylor-Joy.
Ah, j'ai mis la même.
Ah,
j'ai mis la même.
Ok.
Et moi, j'avais rajouté Daisy Edgar-Jones. Elle a joué dans Normal People, la série, qui est une adaptation d'un livre. D'ailleurs, si un jour on a l'occasion d'en parler, elle est très bien. Et elle a joué aussi dans Là où chantent les écrevisses, qui est aussi une adaptation en film d'un bouquin, qui est très bien aussi. Et elle colle bien.
Je la trouvais bien un peu froide peut-être pour le
Elle était bien droite dans ses bottes et tout, je trouve que ça colle pas mal.
Et pour Rowan, alors t'as choisi qui?
Alors pour Rowan, moi j'aurais bien vu Paul Mescal. Je te montrerai qui c'est. Mais lui, c'est pareil, il a joué bah, justement avec Daisy Edgar Jones dans Normal People. C'est un acteur, je crois, qui est anglais. Et je trouve qu'il. En fait, c'est un acteur qui a un physique plutôt basique. Et qui incarnerait bien le rôle du coup de Rohan. Ou alors Barry Keoghan. Et tu sais pas non plus qui
Non.
c'est.
Il a joué dans quoi?
Il a joué dans Saltburn. C'est un film un peu chelou qui est plutôt pas mal. Et surtout, ça a été le petit copain de Sabrina Carpenter.
Ah, ok.
Pendant un petit moment.
Potin. Instant
Et instant potin. Et non, franchement, je trouve que les deux, ils auraient pu bien faire le
potin.
rôle.
Oui, montre. Donc, Barry Keoghan. Ok.
Voilà.
Ouais, une gueule un peu atypique.
Ouais, il est un petit peu atypique. Et après, par contre, Paul Mescal, bon, c'est un petit peu plus simple. Il collerait
Ah,
pas
ok.
trop mal.
Ah, j'aime bien.
Pas
Oui,
trop mal,
ok.
ouais.
Plus
Ouais,
dans
c'est
cette vibe-là.
vraiment. Moi, je le vois bien. Paul
Ok.
Mescal, c'est le number one.
Eh ben, moi, j'avais choisi, je sais pas si tu vois qui c'est, Dylan O'Brien. C'est celui qui a joué dans Teen Wolf
Ah oui!
et Le Labyrinthe.
Ah oui, je
Mais
vois, je vois.
j'adore cet acteur. Il a joué dans d'autres films
Ah
qui
non, mais
sont
c'est
très
vrai.
bien. Et je trouve que, effectivement, un
Bah, il
peu
a un peu la
neutre
même
aussi.
vibe
Effectivement.
que Paul Mescal.
Ouais,
Ah ouais, je
effectivement.
suis d'accord.
Je le voyais bien. Et au début, je pensais aussi à Tom Holland.
Ouais, non, il a un peu trop.
Mais plus Grayson, tu vois.
Ah ouais, grave. Grayson, ça le ferait beaucoup
Ouais.
mieux. Mais oui, ça pourrait être pas mal.
Je le voyais pas assez charismatique. C'est bête, hein, parce que peut-être qu'il sait pas qu'il a pas eu l'occasion de jouer des rôles encore dans ce sens-là.
Ouais, c'est vrai,
Mais.
mais oui, je le vois pas trop non
Ouais.
plus. Et tu vois qui pour Maître Faraday?
Maître Faraday.
Je suis
Alors,
sûre qu'on a le même.
c'est vrai? Tu l'as vu? Moi, j'avais
Non?
dit Ewan
Ah oui, j'ai pensé aussi.
McGregor.
Alors moi, j'ai pas pris
Ok. En
celui-là,
mode
mais j'ai.
Padawan, je sais pas, tout de suite, j'ai pensé à Star Wars.
Ouais, alors moi, j'ai pensé à Stellan Skarsgård,
Ah, ok.
qui joue du coup dans
Oui.
la série Andor. Mais
Oui,
pareil, du coup,
très bien.
qui est un peu âgé. Sinon, après, il y a un autre acteur. Bon, là, il commence à être vraiment âgé parce qu'il a 70 balais. Mais du coup, c'est Billy Bob Thornton
Oui.
qui a joué dans Fargo notamment.
Ok, je vois.
Et je trouve qu'ils ont un peu la même,
C'est vrai, c'est vrai.
le même
Ouais.
esprit.
Il me fait penser au celui qui jouait dans Incarner Eragon.
J'ai pas regardé.
Ok, moi je me souviens plus le nom, mais il y a des petites vibes.
Ouais. Mais en tout cas, voilà.
Ok.
Je
Oui,
l'aurais bien
ouais, c'est
vu
bien.
avec.
Bien, bien joué.
Et pour notre petite dame Curie.
Oui, Dame Curie. Alors moi je pensais à Gwendoline Christie.
Ah, je sais pas qui c'est.
Brienne of Tarth dans
Alors
Game of
attends.
Thrones. Game of
Ah!
Thrones.
Mais oui, elle est pas
Tu
mal!
vois?
Ouais, mais
J'ai
elle est
l'image,
immense.
si tu veux. Ouais, mais je sais pas, j'imaginais. J'adore son. Enfin, je trouve qu'elle
Elle a une aura
ouais,
qui colle
elle a
bien,
une
ouais.
aura qui colle trop bien à Dame Curie. Et en même temps, ce truc-là, c'est une personne qui a vécu depuis très longtemps. Il y a ce masque un peu froid, et en même temps, tu sens que si tu grattes un peu, c'est un petit chou à la crème, tu
Oui,
vois?
et ben moi j'ai un peu le même, j'ai choisi un peu le même type d'actrice. J'ai pris Patricia Arquette,
J'adore.
voilà, qui là dernièrement a joué dans la série Severance,
Ah,
qui
pépite.
est incroyable. Et je la vois trop, genre vraiment comme dans Severance avec ses
Ouais.
cheveux blancs hyper bien peignés. Je la vois trop avec sa robe et tout. Je pense que ça pourrait coller à fond.
Ah
Mais
ouais.
voilà,
Oh,
du coup,
j'adore.
bah oui, on
On
a,
avait trop des bons choix.
ouais. Bon bah si vous avez d'autres choix qui pourraient incarner du coup les personnages, n'hésitez pas à nous en faire part
Ouais.
sur. Bah, soit par mail qui est inscrit dans
Oui,
la
dans la
petite description
description.
et peut-être bientôt sur Instagram.
Ouais, nous suivre sur les réseaux, on stat, dites-nous si ça
Voilà.
vous dit.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite du coup de cette
Et oui,
saison 1 qui est sur la fantasy?
on
On
n'a
va
pas fini
Oh
avec
là
la
là. On
fantaisie.
va s'attaquer à quoi après?
Eh bah, ben, une autre trilogie qu'on a lue ensemble il n'y a pas si longtemps,
C'est vrai.
depuis qu'on a commencé un peu à évoquer
Nos
nos
lectures.
lectures respectives, c'était
Ouais.
passé des. Moi, j'avais pas lu. Toi, t'avais lu, toi.
Ouais, moi j'avais.
Ou on
Non.
lisait ensemble.
Je crois que c'était ouais, quasi en même
Oui,
temps.
je crois
Il va
encore.
falloir
Ouais.
que je me remette dedans. Ça doit
Ouais.
faire au moins un an et demi, là, quand
Ouais. Et moi, j'ai relu le tome 1.
même. Et donc, on va s'attaquer à
On s'attaque à la passe-miroir
La Passe-Miroir, tout à fait,
de Christelle Dabos.
qui est une trilogie aussi, comme La Faucheuse. Donc, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. Et
On se dit à bientôt.
à bientôt.
Salut!